nous entretenons ce matin au téléphone avec Monsieur Laurent Lebon. Bonjour Monsieur Lebon.
Bonjour.
Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous ce matin à l'émission. Vous nous appelez directement de Paris. C'est bien ça?
Et oui, ça marche.
Monsieur Lebon, je vais vous présenter. Vous êtes directeur du centre artistique, vous êtes directeur artistique du centre Pompidou-Metz. Vous avez également été conservateur au centre Georges Pompidou à Paris. Et ce week-end, vous serez à Ottawa pour participer à l'événement Vision, le musée du 21e siècle. C'est un débat-discussion au Musée des beaux-arts du Canada qui aura lieu le 10 novembre. Lors de l'événement, vous vous entretiendrez avec Jean Deloisy, président du Palais de Tokyo, ainsi qu'avec Marc Mayer, directeur du Musée des beaux-arts du Canada, qui agira à titre de modérateur. C'est un événement qui est présenté par l'ambassade de France. Et première question, pouvez-vous nous donner un petit aperçu du débat de ce week-end? Quels sont les grands sujets qui seront abordés?
Oh, bah, je pense que le terme vision est suffisamment vaste, peut-être un peu ambitieux pour un débat, mais c'est surtout, je crois, dans le dialogue. C'est un secret pour personne, on est dans une période difficile, une période de crise, et étrangement, je crois que c'est la même situation au Canada et en France. Les gens reviennent au musée, fréquentent énormément ces institutions, et je crois que c'est intéressant d'essayer d'en comprendre les raisons. De comprendre pourquoi ce lieu qui a pu apparaître parfois un peu dépassé revient au centre de la scène culturelle de partout dans le monde. Il suffit de voir ce qui se passe en Chine ou à Shanghai en ce moment, plusieurs nouveaux musées sont en train d'être inaugurés. Il y a là vraiment un questionnement pour nous de savoir quel est le sens, quel est le fondement d'une institution culturelle aujourd'hui qui est le musée. Alors, à la base, hein, il y a toujours cette idée de collection, mais je crois que le Palais de Tokyo, comme le Centre Pompidou à Metz, propose des visions un peu différentes, où on est dans une logique de mouvement, on est une logique d'exposition temporaire, on est dans un rapport au stock symbolique que forment les collections, peut-être un peu différent de la vision muséale traditionnelle.
Et selon vous, à quoi ressemble le musée du 21e siècle? Comment le décririez-vous?
Ah ben justement, il ne ressemble à rien. Je crois que c'est ça sa grande caractéristique, c'est que c'est la grande leçon de ces dernières années, c'est que tous les musées qui ont du succès ont une histoire qui leur est propre. Ils affichent leurs différences. Et je pense que la tentative de normaliser une institution culturelle, de créer un idéal de musée, a toujours échoué. On peut penser notamment à nos amis du Guggenheim qui ont essayé de créer un réseau mondial et beaucoup de gens ont essayé de copier ce modèle en chacun essayant de faire son propre Guggenheim Bilbao. Comme vous le savez, cette merveilleuse institution qui a été inaugurée maintenant il y a plus de 10 ans dans le Pays Basque. Et en fait, dès qu'on a cherché à copier, on a échoué. En fait, je crois que ce que les gens cherchent au musée, c'est un petit peu, si je peux me permettre la métaphore gastronomique, c'est un peu comme au restaurant, c'est un peu comme un moment d'intimité. Si on va toujours voir la même chose, je pense qu'on est déçu. Voilà. Et je crois qu'aujourd'hui, le musée de demain, c'est justement celui qui arrive à raconter une histoire, celui qui arrive à nous emmener vers un ailleurs pour nous échapper du quotidien qui n'est pas toujours effectivement les plus agréables.
Un des enjeux qui préoccupe beaucoup les institutions culturelles ici au Canada, c'est le vieillissement de la population, c'est-à-dire que la clientèle principale des institutions culturelles, dont les musées, est souvent plus âgée et elle ne se renouvelle pas beaucoup, ce qui fait craindre avec les années la disparition d'un bon nombre d'abonnés et surtout de mécènes. Est-ce que c'est un problème que vous observez chez vous?
Alors, beaucoup moins en France, je dois le dire, puisque quand on regarde la fréquentation de nos institutions, alors évidemment, là encore, on ne peut pas généraliser, hein, parce que rien de commun entre le musée du Louvre et une institution en région comme la nôtre, rien de commun entre le château de Versailles et le musée de Grenoble. Voilà, mais on note quand même une tendance très forte des jeunes à aller au musée, alors peut-être dû en grande partie à la politique qui a été mise en place, peut-être de gratuité, hein, puisque beaucoup d'institutions maintenant en France sont gratuites pour les moins de 18 ans. Et puis cette tradition que vous partagez aussi au Canada d'ateliers pédagogiques pour les enfants qui fait que, toutes les études le montrent, hein, plus on est habitué à aller tôt au musée, si tant est que les visites qu'on a la première fois ne sont pas empreintes d'ennui, on a vraiment la conviction après, qu'on retourne en famille et que c'est une espèce de logique qui s'installe. Et donc effectivement, le vieillissement qui est aussi lié à la vieillissement des populations européennes ne se rencontrent pas encore dans la dynamique de fréquentation des musées. Alors, il y a aussi un point clé, c'est le tourisme. Hein. C'est-à-dire que ce qui est aussi intéressant dans la fréquentation d'une institution muséale, c'est la diversité des publics. Mais par exemple, Jean de Loisy le dirait beaucoup mieux que moi, depuis qu'il a réouvert le Palais de Tokyo il y a maintenant moins d'un an, sa population de visiteurs est très 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 jeune.
On parle de jeunesse, on parle aussi de musées du 21e siècle. Selon vous, quelle place les musées doivent-ils accorder aux nouvelles technologies, aux multimédia, aux réseaux sociaux? Comment est-ce que vous réussissez à intégrer tout ça dans vos expositions et vos interactions avec le public?
Alors, c'est une question qui mériterait presque une heure hein, de réponse, parce qu'en fait, je crois que ce qu'il faut surtout pas faire, c'est ce que justement vous n'avez pas fait, il faut bien distinguer. C'est-à-dire, dans votre question, il y en a plusieurs, c'est pour ça qu'il faut prendre beaucoup de temps. Si on prend, par exemple, les réseaux sociaux, je crois qu'aujourd'hui, toutes les grandes institutions muséales mondiales, même les plus petites, c'est justement ça la chance du réseau social, ont des liens, ont leur communauté, sont critiquées, il y a des, donc pour les plus grandes institutions, il y a des personnes qui sont en charge de ces types de publics, et je crois qu'aujourd'hui, Aujourd'hui, beaucoup plus d'institutions prennent vraiment le temps de bien distinguer entre les visiteurs, entre guillemets, réels, ceux qui viennent physiquement dans l'institution, des visiteurs, bien sûr, virtuels. Et quand vous regardez les rapports d'activité hein, qui rendent compte des institutions muséales, de ce qu'ils ont fait l'année précédente, il y a 10 ans, personne n'évoquait cela. Aujourd'hui, systématiquement, vous avez plusieurs pages pour évoquer ce nouveau type de visiteurs. Il faut distinguer ça très clairement de ce qu'on appelle un peu rapidement les nouvelles technologies, même si parfois on a encore tendance à y mettre la vidéo ou autre chose, qui est vraiment un accompagnement à la visite. Mais je reste intimement persuadé que le visiteur, s'il vient au musée, c'est avant tout pour avoir la force de l'original face à lui. Je crois que c'est ça qui, étrangement, fait son succès aujourd'hui. Quand les fondamentaux nous échappent, on cherche parfois à revenir au réel, au grand moment d'émotion, à ces œuvres qu'on a vues partout reproduites et qui finalement créent encore les moments de passion et d'extase ou même de critique. Si je prends un exemple qui n'est plus personnel, j'ai eu la chance de pouvoir présenter l'œuvre de Jeff Koons à Versailles qui a suscité beaucoup de débats en France parce que pourquoi montrer un artiste américain contemporain au château de Versailles? Et au fond, je répondais souvent, bah vous savez, c'est la première fois qu'on montre son œuvre en vrai en France, dans une institution publique. Et ça, je trouvais très intéressant de montrer qu'un artiste qui est médiatiquement partout, dont on voit les œuvres reproduites partout, et ben finalement, les gens ne se rendaient pas compte de la force, même, j'allais dire, artisanale, de la création de certaines des œuvres, que ce soit des céramiques, des bronzes, des sculptures en métal extraordinaires. En fait, Jeff Koons, c'est vraiment un génie des matériaux. Et je crois que c'était important de revenir aux fondamentaux, c'est-à-dire de montrer les originaux.
Jeff Koons au musée de Versailles, c'est quand même un choix audacieux de votre part.
Oh, bah, c'était peut-être un choix audacieux, mais je crois que c'est aussi la suite d'une histoire qui a commencé avec Louis XIV. Hein. Quand Louis XIV a lancé ce grand monument, cette architecture, d'ailleurs dans la continuité d'un château qui existait déjà du temps de Louis XIII, il y avait une volonté simple de la part de Louis XIV, c'était de faire confiance aux créateurs de son temps. D'ailleurs, ils étaient de toute nationalité, ils étaient de toute génération. On y avait là des Italiens, des Français, des décorateurs, des peintres, des sculpteurs, des ornementalistes. Bah, très modestement, une aventure comme Jeff Koons à Versailles, c'était un petit peu l'écho, 3 siècles plus tard, de cette idée que bah, même si on dit que l'Europe est en train de mourir, même si on dit que notre civilisation va mal, bah, de temps en temps, il faut tout simplement regarder ce que font les artistes contemporains. Ils nous font voir le monde différemment et je crois qu'il faut toujours leur faire confiance.
Vous avez parlé tout à l'heure du musée de Bilbao. Je voulais y revenir avec ce qu'on appelle là, l'effet Bilbao, c'est-à-dire la revitalisation des plus petites communautés grâce à l'ouverture d'institutions associées à des musées très prestigieux, comme le Guggenheim. Et je me demandais, c'est quand même une stratégie qu'on associe là, au Centre Pompidou-Metz et puis même aussi au projet Louvre-Lens. Est-ce que vous êtes d'accord avec
oui.
cette affirmation?
Depuis 10 ans... On me dit ça. Et en fait, depuis 10 ans, je dis malheureusement ou heureusement, je vous laisse le choix, non, on n'a pas les moyens de d'être dans cette histoire. Pourquoi ? Bah, c'est tout simple. C'est que le Guggenheim Bilbao, pour parler français, c'est un one shot. C'est une expérience unique, un précipité chimique dans un lieu précis avec énormément de moyens. Et puis ce coup de génie de cet architecte américain Frank Gehry, qui a utilisé le titanium, cette matière réfléchissante pour recouvrir son extraordinaire architecture. Et je crois qu'on sans le titanium, le Guggenheim Bilbao serait très différent. Et le Guggenheim Bilbao, sans toute la politique que le gouvernement basque a mise en place, de quoi s'agit-il ? Un métro, une nouvelle gare, un nouvel aéroport, un centre des congrès, une salle symphonique. Donc pour un investissement de plusieurs dizaines de millions d'euros au départ, en fait, à la fin, c'est plusieurs milliards qui ont été investis. Et ça, en Europe, ça n'a jamais été reproduit. Pour vous donner un exemple comparatif, puisque vous m'y invitez, le centre Pompidou-Metz, tout compris, c'est 70 millions d'euros. Donc j'ai même pas un tiers de l'architecture du Guggenheim Bilbao pour ce prix-là, et pourtant le bâtiment a été construit 10 ans après. Avec le coût de l'inflation, ça aurait pu être beaucoup plus important. Donc je crois là vraiment fondamentalement, je reviens un petit peu à ce que j'essayais peut-être de vous décrire un peu trop rapidement et superficiellement tout à l'heure, je vous prie de m'en excuser, mais c'est cette volonté de créer des histoires, de créer des précipités chimiques. Et je crois que l'idée de rallier culture et économie me semble une excellente idée. L'idée qu'un outil culturel puisse drainer des flux économiques, financiers, me semble fondamentale. Car je crois qu'il ne faut pas se voiler la face, on est dans un monde où le business est aussi présent, mais je crois que fondamentalement ça ne peut réussir que si on reste attaché à nos valeurs.
Pour revenir au centre Pompidou-Metz, c'est le musée français qui a attiré le plus de visiteurs à l'extérieur de Paris l'an dernier avec 616 000 visiteurs. Quel genre de répercussions ça a eu lieu justement là, sur la vie culturelle de Metz?
Ben, écoutez, c'est... Je crois tout simplement, peut-être pour nos amis canadiens, je remets un petit peu le contexte géographique, quand on parle de la Lorraine en France, très peu de gens connaissent en fait. Évidemment, parfois au mieux ils savent la situer sur une carte, hein, ça se trouve à l'est de Paris, à 300 kilomètres, mais pour l'imaginaire, le cliché hein, français, la Lorraine, c'est un pays un peu lié au monde de l'industrie, souvent qui a été une ville de garnison militaire, donc tout un tas d'images plutôt négatives. Voilà. Et donc je pense que la principale contribution à cette image culturelle qu'a pu apporter le centre Pompidou-Metz, c'est justement peut-être un changement peut-être de prisme, hein, un changement de paradigme. Alors évidemment, c'est une histoire qu'il faut inscrire sur le long terme, hein. Ça se fera pas en 2 ans, ça se fera j'espère sur plusieurs décennies et avec mes successeurs. Mais je crois que, et d'ailleurs notre conversation d'aujourd'hui en est une petite preuve, que grâce à cette maison, d'autres nous regardent, d'autres parfois même nous font l'amitié de venir nous voir. Et je crois que c'est aussi ça la culture, hein, sans faire de tout un monde idéal, mais je crois qu'il y a cette volonté, on parle suffisamment de conflits à longueur de journée, que grâce à la culture, ils peuvent passer des choses différentes. Alors après, la scène culturelle lorraine n'a pas attendu le centre Pompidou-Metz hein, pour se développer, ne serait-ce que déjà les siècles passés. On peut par exemple évoquer Georges de la Tour, hein, ou pour prendre un peintre français du XVIIe siècle, ou l'école de Nancy, hein, qui se trouve tout près de Metz avec ses extraordinaires créateurs verriers. Donc il y a toujours eu un terreau culturel en Lorraine, avec aussi une vieille tradition du cristal, hein, de manufacture. Donc je crois que le centre Pompidou-Metz s'inscrit hein, dans cette constellation d'institutions et apporte, ça peut petite contribution à faire que le regard sur la Lorraine est un peu différent et comme vous avez eu l'amitié de le dire, les chiffres en tout cas en touche du bois, comme on dit en français, permettent de penser que ça commence à s'inscrire dans la stabilité sur plusieurs années.
Monsieur Lebon, malheureusement c'est tout le temps qui nous reste pour l'émission d'aujourd'hui. Merci beaucoup de votre participation aux missions du matin là en direct de Paris aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes directeur artistique du Centre Pompidou-Metz et que vous participez ce week-end au débat-discussion intitulé « Vision, le musée du 21e siècle » qui sera présenté à l'auditorium du Musée des beaux-arts du Canada le 10 novembre prochain, donc ce samedi de 15h à 17h. L'entrée est libre et l'événement est une présentation de l'ambassade de France. Merci encore d'être avec nous ce matin et cet après-midi pour vous.
Merci pour votre invitation et à très bientôt.
À très bientôt.